Bonjour à chacune, à chacun. Vous pouvez ouvrir votre Bible à nouveau dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2. Deux choses ce matin que j'aimerais souligner, deux sujets. Le premier, toujours lié à la joie. Philippiens, l'Épître de la joie. La joie dans la souffrance, avons-nous vu la semaine dernière dans le chapitre 1. Et puis le second sujet, concernant nos relations les uns avec les autres, des relations qui construisent, des relations qui investissent de la part de Jésus dans la vie de ceux qui nous entourent. Alors, nous commençons par ce sujet de la joie. Et je vous invite à relire le verset 1 et 2 et nous allons nous arrêter sur cette expression du verset 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Rendez ma joie parfaite, dit l'apôtre Paul. Une manière plus simple de le traduire, c'est compléter ma joie. Compléter ma joie. Et là, nous avons dans ce passage et dans cet épître un enseignement fondamental. Oui, l'apôtre Paul peut voir sa joie complétée. Par quoi peut-elle être complétée ? Ici, il dit, vous voulez compléter ma joie ? Eh bien écoute, ayez des relations apaisées. Ayez des relations harmonieuses. Et il dit, voilà, quelque chose qui complète ma joie, c'est que les gens que j'aime, c'est que les gens qui me sont proches, eh bien, ils aient des relations paisibles. Voilà un exemple. Un petit peu plus loin, un autre exemple de ce qui peut compléter la joie de l'apôtre Paul, nous le trouvons toujours au chapitre 2. Et nous le trouvons à partir du verset 25. Il s'agit d'Épaphrodite. Épaphrodite, c'était ce frère en Christ que l'église de Philippe avait envoyé jusqu'à Rome pour apporter de l'argent à l'apôtre Paul. L'église de Philippe avait décidé d'une somme qu'elle allait faire comme don à l'apôtre Paul qui avait besoin de ressources financières, même du fonds de sa prison, il avait besoin d'argent. Et l'église de Philippe s'est cotisée et a fait une offrande et elle a envoyé le frère Épaphrodite jusqu'à Rome pour lui porter cet argent. Et nous voyons un petit peu plus loin au chapitre 4. Au chapitre 4, verset 10, eh bien, comment ça a fait plaisir à l'apôtre Paul de recevoir cette attention financière. Au verset 10, il dit « J'ai éprouvé une grande joie. » Nous voyons le mot « joie » ici. Hein. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » C'est une manière de dire vos sentiments sont passés par le porte-monnaie. Hein. « Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Puis après, il dit, voilà, en fait, vous avez été les seuls comme église à entrer en compte avec moi pour des dons. Hein? Voilà. Et donc, oui, qu'est-ce qui peut compléter la joie de l'apôtre Paul ? Eh bien, c'est passer d'une situation financière
un peu serré, un peu étriqué, un peu difficile.
Ah, un peu d'air. Un peu d'air au niveau de l'argent. Ça me fait plaisir. Nous voyons autre chose encore qui complète la joie de l'apôtre Paul, et ça touche toujours Épaphrodite. C'est que c'est Épaphrodite qui est venu jusqu'à Rome pour envoyer de l'argent. Si vous vous souvenez, il est tombé gravement malade. Et il est passé à deux cheveux de la mort. Mais le Seigneur l'a guéri. Et Paul en parle. Chapitre 2, verset 27. Il a été malade en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Paul, il dit, voilà, il aurait pu mourir et j'aurais eu tristesse sur tristesse, mais le Seigneur, il sait ce que... Voilà, le Seigneur a son plan et il sait jusqu'où il peut éprouver son serviteur. Il dit, le Seigneur a eu pitié de lui, mais pas que de lui, il a eu aussi pitié de moi, que j'accuse pas encore le coup, il l'a guéri. Et nous voyons donc là trois exemples de choses qui complètent la joie de l'apôtre Paul. Une situation financière qui s'améliore, voilà qui complète sa joie. Un proche qu'il aime et qui guérit, voilà qui complète sa joie. Des relations paisible, harmonieuse, des gens qui, au lieu d'être en conflit les uns avec les autres, se rapprochent, voilà qui pourrait compléter sa joie. Et là, il le demande aux Philippiens. Il dit, vous voulez compléter ma joie? Pour l'instant, je sens bien que chez vous, dans votre église, là, il y a des tensions, il y a des conflits, il y a des gens qui sont en bisbille les uns avec les autres. Franchement, ça me fait de la peine. Vous voulez compléter ma joie? Progressez là-dedans. Et nous pouvons continuer d'évoquer des choses qui peuvent compléter la joie. Mais vous avez remarqué cette expression, rendez ma joie parfaite, complétez ma joie. Quelle joie? Ah, c'est donc qu'il y a une joie de base. Il y a le noyau dur de la joie de Paul. Mais qu'est-ce qu'elle est, cette base dure? C'est parce que tout va bien dans sa vie? Non, il est en prison et il est en attente du procès, du jugement, et il ne sait pas si ça va être la peine de mort. Donc voilà. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et pourtant, il est dans la joie. Et pourtant, le premier verset du chapitre 3, hein, on s'est arrêté fin du chapitre 2, mais regardez le chapitre 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ah. On répète. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Regardez le chapitre 4. Chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ça, c'est le secret. On se souvient que l'épître aux Philippiens, l'église de Philippe, elle a été fondée par l'apôtre Paul, et on se souvient, c'est raconté dans les Actes, qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire, d'invraisemblable à Philippe? Eh bien, Paul a été attrapé par les autorités de la ville, il a été frappé, flagellé, fouetté, il a été... On lui jetait en prison, les fers aux pieds, et en pleine nuit, après avoir reçu des coups, être dans la prison, qu'est-ce qu'il fait notre Paul? Il chante, mais il chantait les louanges du Seigneur. Ben voilà. Voilà comment à Philippe, Paul, sans grande parole, mais simplement par son vécu, il a bouleversé des cœurs. C'est que dans la souffrance, il était quand même joyeux. Les épreuves qu'il traversait ne pouvaient pas atteindre le noyau dur de sa joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul avait compris, avait vécu qu'en tant que chrétien, nous avons la grâce extraordinaire que le Saint-Esprit produit en nous sa joie. Et le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Et d'autres choses, mais la joie. Et Paul avait expérimenté. C'était pas juste de la théorie, c'était pas des paroles. Il est attrapé, il est dans la prison, il chante. Cette fois-ci, quelques années plus tard, il est à Rome, en prison. Il continue d'être dans la joie du Seigneur et il est capable même de porter sur ses épreuves un regard positif en disant, ben, vous savez, je veux quand même vous dire que tout ce qui m'arrive, ça contribue au progrès de l'Évangile et je m'en réjouis. Il y avait des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus dans l'entourage d'Empire de l'Empereur. Il était près de l'empereur, garde prétorienne. Et bien maintenant, ils connaissent Jésus. Et même avant, j'étais tout seul à évangéliser. Et bien maintenant, on est toute une équipe. Ça a encouragé les chrétiens à parler de Jésus, dis donc. C'est positif. Alors, la grande question, maintenant. Est-ce que nous, au niveau de la joie, parce que c'est le sujet de la joie, nous, notre problème, c'est que notre joie, nous avons une tendance à la constituer des satellites. Alors là, je vais prendre une image, hein, des joies satellitaires. Les joies satellitaires, c'est quoi? Une meilleure situation financière, ça me fait plaisir. C'est une joie satellitaire. Paul, il s'en réjouit, il dit, ah, super, impeccable. Je suis content, une grande joie. Quelqu'un dans votre entourage ou vous-même, vous guérissez. Ça fait plaisir, une joie ça. C'est une joie satellitaire. Une bonne ambiance, des gens qui s'entendent bien les uns les autres, et bien ça fait toujours plaisir. Et puis on peut continuer. Toutes ces joies satellitaires. Mais Paul dit attention, elles viennent compléter ma joie. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ça vient compléter ma joie. Ma joie, elle est déjà là. Elle est dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je suis en prison. J'ai été frappé. Qu'importe. Ma joie, elle est là. Après, cette joie, elle peut être complétée par des joies satellitaires. Et j'en loue le Seigneur, dit Paul. Mais quand il n'y a pas le noyau dur, quand il n'y a pas le noyau dur de la joie. Alors là, nous prenons donc l'exemple des planètes. Prenons la Terre. Il y a des satellites qui tournent autour, on est d'accord? La Terre, c'est le noyau dur, c'est la joie centrale qui est en Christ. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et puis autour, il y a des satellites qui tournent et ce sont des joies satellitaires. Enlevez le noyau dur. Où vont les satellites? Est-ce qu'ils continuent de graviter, de tourner autour de la Terre? Non, parce que ce qui les fait graviter et tourner, c'est la masse, hein, c'est le noyau dur qui est au centre, et la loi de la masse et de la gravitation fait que ça les attire. Une grosse masse attire les masses, enfin une masse attire une masse, et elle tourne autour. Si vous enlevez le noyau dur, le satellite, il file tout droit. C'est une étoile filante. C'est une météorite. Ça fait toujours plaisir de voir des étoiles filantes. On est toujours content. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, une étoile filante! Ah, c'était bien. Bah, c'était rapide. Ben, le problème, c'est que les joies satellitaires, quand elles ne sont pas centrées sur le noyau dur, c'est des étoiles filantes. Une guérison. Ah, ça fait plaisir. C'était bien cette étoile filante. Bon, mais il va falloir d'autres étoiles filantes parce que maintenant, ça m'a donné de la joie, mais c'était court. Hein. Ah, une rentrée financière. Ah, chouette. Ouais, puis après, ça retombe. Hein, la joie retombe. Ce n'est pas les satellites qui constituent le noyau dur de la joie. Et ça, on a besoin de le comprendre dans l'Épître aux Philippiens. Toutes les grâces, tous les dons supplémentaires que Dieu fait, une bonne santé, un travail, un dénouement heureux, trouver le grand amour et se marier, la naissance d'un enfant. Il y a plein de choses dans la vie qui ça fait plaisir. Ce sont des grâces, ce sont des joies. Mais ce sont des joies satellitaires qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Et qui sont brefs, c'est bref. Et la question que nous avons besoin de nous poser, c'est est-ce que comme Paul, j'ai le noyau dur de la joie que personne ne peut m'enlever, qui est dans le Seigneur. Et nous, chrétiens, nous avons cette grâce, cette chance extraordinaire de pouvoir, par le Saint-Esprit, accéder, vivre ce noyau dur de la joie, quoi qu'il en soit, la joie au sein de la souffrance, au sein des larmes, au sein des épreuves, une joie que nul ne peut nous ravir sauf nous-mêmes. Est-ce que nous voulons apprendre à cultiver cette joie? C'est ce que Paul propose aux Philippiens en leur disant « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». C'est un ordre, c'est un mot d'ordre, réjouissez-vous, voilà. Fondez et entretenez ce noyau dur de la joie. Je le répète, réjouissez-vous. Et il dit, réjouissez-vous. Il manque un mot, réjouissez-vous. Toujours, chapitre 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Cultivez ce noyau dur. Et après, Paul dit, vous savez, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Content, il ne blague pas. J'ai appris à être dans la disette. J'ai appris à être dans l'abondance. J'ai appris à avoir faim. J'ai appris à être rassasié. Mais vous avez bien fait de m'envoyer tout cet argent. Et c'est tout. Merci. Et ça m'a donné de la joie. Mais cette joie satellitaire, même si je ne l'avais pas eue, ça aurait été dur, plus dur. Mais ça n'aurait pas touché le noyau dur de ma joie. Et ça, moi je trouve ça formidable, et je trouve que là j'ai un trésor à découvrir, un trésor à améliorer pour moi. Je me dis, Adrien, là, ce noyau dur de la joie, réjouissez-vous dans le Seigneur, il faut que tu le fondes, il faut que tu le construises solidement dans ta vie, pour que, eh bien, que les satellites soient là ou pas. Épaphrodite aurait pu mourir. Et il aurait une tristesse supplémentaire, Paul. Il le dit, j'aurais eu tristesse sur tristesse. Seigneur, aie pitié de moi. Mais ça n'atteint pas le noyau dur de ma joie. Et le problème, c'est quand nous confondons, parce qu'on veut être heureux, on veut être heureux dans la vie. Alors on cherche à s'entourer de tous les satellites. Et ça, c'est ce que l'être humain normal y fait. L'être humain sans Dieu, le centre, il est vide. Alors on essaye de combler son existence avec des joies satellitaires. De la détente, du plaisir, l'amour, ceci, de l'argent, des amis, des fêtes, des voyages, qu'importe, des tas de choses qui nous font plaisir, des bonnes choses à manger, on n'achète pas des cochonneries, enfin voilà, on se fait plaisir. Enfin, il y a mille et une manières dans notre vie d'essayer d'amasser le plus possible de joies satellitaires. On essaie de les rassembler pour en constituer un noyau dur. On se plante. Et des fois, on se dit, mais c'est pas possible, telle personne, comblée comme elle est, comment ça se fait qu'elle s'est suicidée, tiens. Comment? Bon. Elle avait tout pour être heureuse. Mais le noyau dur. Et c'est cruel de découvrir, et c'est ça le problème, c'est quand on peut avoir accès à tout, et de découvrir que ce ne sont que des satellites, et que ces satellites ne feront jamais le noyau. Alors là, vous n'avez plus d'espérance dans la vie. Hein, tant qu'on a
Tant qu'on n'a pas ces satellites, on peut toujours rêver et croire que quand on les aura, enfin on sera heureux. Mais quand vous les avez et que vous n'êtes toujours pas heureux, qu'est-ce qui vous reste?
Alors, ne nous trompons pas, frères et sœurs. Apprenons, comme les Philippiens, comme Paul l'a appris, à cultiver la joie dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Prenons soin, entrons dans ce noyau dur. Et puis bénissons le Seigneur pour les joies satellitaires qu'il envoie et qu'il permet. Et l'apôtre Paul s'en réjouit et il dit: vous complétez ma joie. Vous la complétez. Quelle belle expression! Le Seigneur lui-même constitue le noyau dur de la joie de Paul. Et puis les événements heureux complètent cette joie. Et Paul s'en réjouit. Ça, c'était la première chose que je voulais partager avec vous, parce que nous avons là un trésor à creuser pour nos vies. La deuxième chose concerne nos relations les uns avec les autres. C'était le sujet qui pouvait compléter justement la joie de l'apôtre Paul. Il dit voilà, dans l'église à Philippe, là, je vois que il y a un truc qui me chagrine, il dit. Et donc si ça changeait, forcément ça compléterait ma joie. Ce qui me chagrine, c'est que verset 2, vous n'avez pas un même sentiment, vous n'avez pas un même amour, vous n'avez pas une même âme et vous n'avez pas une même pensée. Il y a des choses qui sont faites par esprit de parti, il y a des choses qui sont faites par vaine gloire. Et j'ai tendance à penser que beaucoup d'entre vous considèrent leurs propres intérêts au lieu de considérer ceux des autres. C'est le verset 4. D'ailleurs, Paul en reparlera à propos des chrétiens qui l'entourent à Rome. À Rome. Prenez le chapitre 4. Et non, c'est pas le chapitre 4. Pardon, ben non, en fait, c'est le chapitre 2, c'est le chapitre d'aujourd'hui. Voilà, c'est notre chapitre aujourd'hui. Bon, ben tant mieux. C'est le chapitre 2 et au verset 19, 20, 21. En fait, il dit: j'espère vous envoyer Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Bon, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone, etc. Voilà. Pour savoir dans quel état se trouvaient les Philippiens, est-ce qu'il y avait de la persécution, pas de la persécution, est-ce qu'il y avait des divisions, pas de divisions, est-ce que les gens progressaient, est-ce qu'ils étaient fermes. L'apôtre Paul, il n'en savait rien. Il fallait bien envoyer quelqu'un sur place, prendre la température, hein, hop, et puis revenir avec les nouvelles. Il dit: je vais vous envoyer Timothée. Bon, pourquoi Timothée? Verset 20. Il dit: car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. En gros, en fait, il cherchait quelqu'un qui puisse faire ce trajet. Alors, aller de Rome jusqu'à Philippe en Grèce, bon, il faut un peu de temps, il faut partir en voyage juste pour aller prendre la température spirituelle et revenir, tu vois. Ben, ça n'arrangeait pas. Manifestement, dans l'entourage de l'église de Rome, Paul n'a trouvé personne qui soit prêt à apprendre sur lui pour faire ce voyage dans un esprit missionnaire, dans un esprit de service du Seigneur, pour dire: ouais, eh non, tu comprends, là, je peux pas, là, j'ai mes affaires. Oui, chacun cherche ses propres intérêts, dit Paul. J'ai personne qui prend à cœur vraiment votre situation. Voilà, c'est comme ça. Mais il dit aux Philippiens: j'ai l'impression que par chez vous, vous avez besoin d'apprendre, verset 4, au lieu de considérer ses propres intérêts, apprendre à considérer ceux des autres. Voilà un petit peu la situation à Philippe. On voit un cas concret. C'est au chapitre 4.
et au verset 2. Et c'est assez rare, mais les personnes concernées sont nommées par leur prénom. Alors on a la postérité de ces deux personnes qui ne s'entendaient pas. Il dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. » Là, il dit, il parle de deux sœurs, Évodie et Saint-Tiche, qui étaient des femmes engagées puisqu'elles étaient compagnons d'œuvre autrefois avec Paul. Elles faisaient partie de l'équipe de Paul, avec Clément et avec d'autres, hein, qui ont vraiment combattu pour l'Évangile. Il dit, elles ont combattu pour l'Évangile avec moi. Donc des chrétiennes engagées. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ça a clashé. C'est pas ce qui s'est passé entre ces deux sœurs, deux chères sœurs, mais il y a manifestement, elles n'ont pas la même vision des choses. Et une vision suffisamment différente pour que ça les a un peu fâchés. Peut-être elles ne se parlent plus. Elles sont en rupture. Voilà pourquoi, si nous revenons à Philippiens 2, hein, ça lui fait de la peine à l'apôtre Paul. Parce que les Philippiens, il les connaît, il connaît les situations. Là, il pense à Évodie et Saint-Tiche, mais il pense peut-être à d'autres. Il pense en particulier à elles, parce qu'en plus, elles étaient vraiment engagées. Ce n'étaient pas des chrétiennes charnelles. Non, chrétiennes solides. Et ça lui fait d'autant plus de peine. Il dit, complétez ma joie en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Faites rien par esprit de parti, par vaine gloire. Et il dit, j'exhorte Saint-Tiche, là, à avoir un même sentiment dans le Seigneur. Ce n'est pas toujours évident d'avoir un même sentiment, d'être sur la même longueur d'onde. Et Paul le sait. Et c'est pour ça qu'au chapitre 3, regardez le chapitre 3, versets 15 et 16. Il dit, nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, c'est-à-dire mûrs dans le Seigneur, hein, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Il dit, ok, on ne pourra pas toujours être du même avis et il n'y a pas de coup de baguette magique qui fait que des fois, la situation s'éclaircit. Des fois, il faut, vous savez, quand on a remué la vase, il faut laisser retomber. Et il dit, le Seigneur vous éclairera là-dessus, je ne sais pas quand, dans une semaine, dans un mois, dans cinq ans. Il fera la lumière dans votre cœur. En attendant, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. C'est-à-dire, plutôt que de voir les points de rupture, voyons les points de communion. Voyons ce qu'on peut construire ensemble. Dans notre relation, cette relation, peut-être en ce moment, elle a des limites, il y a des choses, on va attendre que le Seigneur nous éclaire, que ça se décante. Mais par contre, on va cultiver autant que possible dans la relation ce qu'on peut construire ensemble. Comment on peut avancer d'un même pas. Là où on en est parvenu, là où nous sommes en corrélation. Centrons-nous là-dessus. Et ayons cet échange et cette communion-là. Il dit, des fois, il y a des points de rupture, ok, des aspects. Mais ne prenons pas ces aspects pour rompre tout, même là où en fait, on est en accord et là où on peut avoir une relation constructive. Alors, ce sujet nous amène à plusieurs mots d'ordre. D'abord, l'apôtre Paul dit, premier mot d'ordre, pas de rupture comme ça. Le principe de la rupture, bam! Il dit, c'est pas selon le Seigneur. on tâche, jusque là où on est parvenu, de marcher ensemble. Voilà. Pour le reste, laissons Dieu faire son travail, on en tient compte, mais pas de rupture. Évodie et Saint-Tiche, il dit non. Si vous avez dans votre relation entériné une rupture et voilà, non. Il dit non. Vous allez construire, vous allez bâtir, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Mais vous devez avoir cette intention de vous mettre en accord autant que possible l'une avec l'autre. Et là, il dit d'ailleurs au pasteur de Philippe en disant « Et toi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. » Oui, il y a souvent besoin d'une tierce personne. Et c'est aussi, entre autres, le travail pastoral. De pouvoir aider, être un intermédiaire dans ces relations difficiles entre deux personnes. Mais dans l'Église, il y a des hommes et des femmes qui ont ce don, ce cœur pastoral, j'ai envie de dire, et qui peuvent être ces aides, ces intermédiaires. Entre un frère, deux frères, deux sœurs, frères et sœurs qui sont un peu brouillés, qui ont du mal entre eux. C'est important. Donc ça, c'est le premier mot d'ordre. N'entérinons pas de rupture. Travaillons sereinement et autant que possible à renouer, rester noué là où on est noué. Et puis le Seigneur éclairera. Deuxième mot d'ordre. Alors là, un truc trop bizarre. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Là, c'est le regard qu'on porte sur les autres. Et nous, souvent, le regard qu'on porte sur les autres, c'est « Ouais, bah lui, c'est un abruti. Lui, c'est n'importe quoi. Là, c'est un chrétien. » Alors, tu te demandes même s'il est chrétien. Enfin, en tout cas, c'est... Franchement, là, il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est sur le jugement de valeur. Et souvent, nous portons des jugements de valeur. Et le mot d'ordre qui est là, c'est ceux qui sont autour de toi, quels qu'ils soient dans l'Église, tu vas les considérer comme étant des meilleurs pilotes que toi. Alors là, ça a du mal à passer. Et ce texte, il n'est pas évident à comprendre. Comment mettre en œuvre le fait que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes? Est-ce que c'est un tour de passe-passe en disant « Bon, ben, par humilité, je vais considérer qu'il est supérieur à moi. » Là, vous avez compris que le cœur n'y était pas. Les mots, ils sont... Mais il n'y a aucune conviction. Vous n'en êtes pas persuadé. Vous le dites, mais la persuasion... Alors, comment on fait? Alors, c'est là que nous avons besoin de considérer l'autre comme un pilote devant Dieu. Je donne une illustration lorsque je parle de ce passage. C'est l'illustration de la grande course de la vie dans laquelle Dieu nous met chacun. Comme course automobile. Et nous sommes des pilotes, ok ? Et à la fin, le Seigneur va qualifier et mesurer notre valeur de pilote. Comment nous aurons piloté notre vie, comment nous aurons piloté notre existence. Est-ce qu'il nous dira « c'était bien, bon pilote toi » ou est-ce qu'il va nous dire « pilote moyen, pilote médiocre ». Alors nous, on a tous nos avis les uns sur les autres, ça c'est sûr. Ouais, lui, bon pilote, moyen pilote, pilote médiocre. Seulement, pour piloter notre vie, parce que le Seigneur nous rend responsables de notre existence quand même. Il nous amènera en jugement, au tribunal de Christ. Mais le Seigneur dit ailleurs que ce jour-là, il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Ça veut dire quoi qu'il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres ? Mais ça veut dire que lui, il sait exactement ce que nous ne savons pas. Dans cette grande course de l'existence, le problème, c'est que nous ne pouvons pas nous comparer comme pilotes. Pourquoi ? Parce que personne n'a la même route. Vous avez la même route ? Alors, c'est vrai, hein, Grand Prix de Formule 1, ils ont tous le même circuit. On est d'accord. Tous le même circuit. Est-ce que vous avez le même circuit que vos frères et sœurs qui sont assis autour de vous ? Non. On n'a même pas les mêmes nationalités. On n'est même pas nés dans les mêmes pays. On n'est même pas nés dans les mêmes villes. On n'a même pas eu les mêmes parents, dis donc. On n'a même pas le même niveau social. Vous voulez qu'on continue comme ça ? Tout ce qui est différent dans notre route, on n'a pas les mêmes parcours. Alors déjà, quand on n'a même pas le même parcours, c'est compliqué de dire de l'autre « Oh, t'es un pilote pourri, toi. Moi, franchement, ce virage, je l'aurais mieux amorcé. » Ouais, d'accord, mais enfin, tu connais son parcours ? Et puis, comme si ça ne suffisait pas, le Seigneur, non seulement, il ne donne pas le même parcours, mais il ne donne même pas la même bagnole. On n'a même pas la même voiture. Alors, c'est sûr que l'autre qui fait le malin avec son 4x4, il dit, t'as vu, moi, je l'ai passé comme une fleur. L'autre, il a une Renault 19 verte. non, c'est que notre troisième voiture. Bah, c'est sûr, tu passes pas les rivières de la même manière. C'est sûr, quand dans ton parcours tu rencontres une rivière, t'es en Renault 19 ou t'es en 4x4 un peu surélevé, c'est pas pareil. Au niveau de la rapidité non plus, je vous garantis que c'est pas pareil. Oui. Au niveau du blindage non plus, vous savez, quand dans votre parcours vous avez des attaques terroristes, on vous attendait et pam, 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 pam. Nous en France on n'a pas trop ça, mais il y a des pays, ça dégomme, hein. C'est la guerre, hein. Eh ben, il vaut mieux des vides blindés, hein. Hein ? On n'a pas le même véhicule. Alors, comment est-ce qu'on peut se comparer dans notre valeur de pilote de notre existence alors que nous n'avons pas ni la même route, ni le même véhicule ? On peut rentrer dans des détails. Par exemple, s'il fallait ce matin dans l'église que les gens, par exemple, qui ont subi des attouchements sexuels lèvent la main dans l'église ce matin, combien lèveraient la main ce matin dans l'église en disant « Dans ma vie, j'ai connu des attouchements sexuels ». Je ne vous demande pas de lever la main. Hein. Combien ? Les statistiques nous disent 1 sur 2. Et oui, 1 sur 2 d'entre nous lèverait la main, et c'est la même chose dans l'église. Et oui. Ah ben oui. Ah ben oui, mais est-ce que ça laisse des traces ? Est-ce qu'on est au courant ? Est-ce qu'on imagine ? Combien d'entre nous devraient lever la main si ils ont eu des parents mal aimants ? Mal aimants. Vous imaginez bien qu'à l'école à Tarascon, on en voit. Qui d'entre nous lèverait la main parce qu'il a eu une famille complètement dysfonctionnelle, déséquilibrée ? Combien d'entre nous ? Combien d'entre nous lèveraient la main parce qu'ils ont subi un divorce ? Et le chagrin d'avoir été trompé, d'avoir été trahi, par exemple. Combien d'entre nous lèveraient la main parce que, quand ils étaient plus jeunes, à l'école, ils ont été harcelés, moqués. on parle beaucoup du harcèlement actuellement dans le milieu scolaire et qui pousse souvent même des enfants, des ados au suicide, etc. Hein, mais combien d'entre nous? Combien d'entre nous sont atteints dans leur santé, et peut-être depuis longtemps, avec une douleur physique de tous les jours? Combien d'entre nous ont un handicap? Un handicap physique, un handicap mental, et dans les handicaps mentaux, par exemple, tout simplement, hein, ça c'est mon rayon, les difficultés, les troubles de l'apprentissage. Hein. Eh oui, vous êtes dyslexique. On vous l'a peut-être jamais dit. Mais alors, qu'est-ce que vous avez ramé à l'école? Et puis les autres, et puis votre image, et puis... Hein? Combien d'entre nous lèveraient la main parce qu'ils ont subi la douleur que leurs parents divorcent? On peut continuer comme ça. On peut continuer comme ça, puis après, on se rend compte qu'on ne connaît pas nos vies. On ne connaît pas tout de nos vies. Est-ce que vous savez ce que notre frère, notre sœur a vécu, quel a été son parcours, quels sont les événements dans sa vie qui ont été marquants? Et c'est vrai que peut-être qui ont développé son sale caractère, peut-être. Peut-être. Alors, on se rend compte qu'en fait, on ne sait pas. Et même quand on pense que quelqu'un a une vie épargnée et nickel, c'est pas forcément le cas. Et quand bien même quelqu'un a eu une vie épargnée et nickel, vous dites, lui avec la vie qu'il a eue, franchement, je ne comprends pas qu'il soit avec ce sale caractère si égoïste et machin, il a tout eu dans la vie. Peut-être tu serais pire. En quoi consiste l'humilité? L'humilité consiste à dire, si j'étais dans la peau de mon frère ou de ma sœur, si j'avais eu son parcours de vie, avec ce qui lui est arrivé, les parents qu'il a eus, la vie qu'il a eue, les événements qu'il a eus, est-ce que j'aurais fait des meilleurs choix que lui? Est-ce qu'aujourd'hui je serais un meilleur pilote que ce qu'il est? C'est ça la question. Parce que quand il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, ça veut dire, attention, quand tu considères ton frère dans sa valeur de pilote, comment il pilote sa vie, tu peux comme ça, à la va-vite, trouver que, ouais, enfin, il pilote, il n'est pas bien malin quand même, des fois, il fait des choix, il a des réactions, enfin, voilà quoi. Oui. Si tu avais eu sa vie, est-ce que tu aurais des meilleures réactions, est-ce que tu aurais un meilleur pilotage? Alors là, le problème, c'est que si on répond, ouais, je crois. Oui, je pense que je serais meilleur pilote. Franchement, j'aurais vécu tout ce qu'il a vécu, que j'ignore d'ailleurs, mais je pense que je serais meilleur pilote. Le Seigneur nous dit, ben, t'es un grand prétentieux. Parce que tu ne peux pas savoir. Qui est la seule personne à pouvoir savoir? C'est le Seigneur. Hein. Sur cette valeur de pilote, parce qu'on connaît parfaitement nos vies, parfaitement nos circonstances, il n'y a qu'un seul qui puisse dire quelle qualité de pilote nous sommes dans notre vie. Si les choix et les mauvais choix et les péchés et ceci qu'on a fait dans notre vie, est-ce qu'on... Il n'y a que le Seigneur qui peut dire quelle est notre valeur de pilote. Mais est-ce que nous, on peut le dire des autres? Hein? Alors quand on dit, ouais, ben, je pense que tel frère, telle sœur, enfin, franchement, si tu étais à sa place, tu aurais mieux fait. Oui, je pense que j'aurais mieux fait. Là, le Seigneur nous dit, là, t'es un grand prétentieux. C'est ton orgueil. Tu estimes arbitrairement que tu piloterais mieux, tu serais meilleur. Ah oui? Il dit, écoute, en fait, comme tu ne peux pas savoir, le Seigneur nous dit, écoute, de deux choses l'une, comme tu ne peux pas savoir, eh bien, tu vas opter pour l'humilité. L'humilité, c'est la sagesse d'estimer qu'on n'aurait pas forcément fait mieux que l'autre. Et probablement moins bien. Comprenez l'idée? Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, c'est dire on voit un frère, on voit une sœur dans sa vie, et des fois il y a des choses, des choix qui ne vont pas. Ça c'est factuel, ce qui ne va pas, ne va pas. Paul ne transigera jamais sur ce qui ne va pas. Mais ça ne me permet pas de le juger dans sa valeur de chrétien, en disant c'est un mauvais chrétien, ou c'est, enfin franchement, est-ce que moi j'aurais mieux fait ? C'est pas sûr. Peut-être que j'aurais fait des choix pires. Je prends un exemple, Jean-Denis me pardonnera. Imaginons que je sois Jean-Denis. Me voilà malgache, débarqué à Marseille à 21 ans. Comment j'aurais piloté ça ? Je sais pas. Peut-être que j'aurais fait la fête à Marseille. Hein ? Comment j'aurais piloté ça ? Je sais pas. Et notre cher frère qui est venu s'installer sur Arles et qui est resté célibataire jusqu'à 43 ans. En attendant que le Seigneur place dans sa vie, au moment où le Seigneur l'avait décidé, la femme qu'il voulait pour Jean-Denis. Comment est-ce que j'aurais géré ce célibat de une vingtaine d'années, là, plus, en tant que pilote devant Dieu ? Je préfère pas vous répondre. Je pense que j'aurais court-circuité le plan de Dieu parce que le temps m'aurait semblé trop long. Comment j'aurais piloté ? Et on commence comme ça, et là c'est dans les bons choix, mais ça peut être dans des mauvais choix. Comment est-ce qu'on aurait piloté ? On ne peut pas savoir, parce qu'on n'est pas l'autre, parce qu'on n'a pas son véhicule, parce qu'on n'a pas son parcours de vie. Et le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Et on sait à quel point toutes ces choses, on a mentionné les abus, on a mentionné les familles dysfonctionnelles, on a toutes ces choses ont une importance capitale, capitale. Alors, ayons simplement la sagesse de dire, moi, je ne sais pas si j'étais à sa place, je piloterais mieux. Et peut-être que dans sa valeur de pilote, il est meilleur que moi. Peut-être que le Seigneur, à la fin, je vais lui dire, t'as vu Seigneur, je suis arrivé à telle heure, pas mal hein, le parcours. Il dit, c'est vrai, mais enfin quand même, t'avais quand même une grosse portion d'autoroute, puis t'avais quand même une Porsche, hein. Alors maintenant on fait moins le malin, hein, t'es arrivé tôt, hein. Mais ça va, le parcours était pas trop fatigant, tu avais la clim en plus. Hein. Ça, la clim, c'est une bonne position sociale. Enfin, vous voyez, t'avais la clim, ça roulait, hein. Mais je suis content du parcours que t'as fait, hein, mais... Dis donc, avec ta Porsche, là, t'as pas vu quand l'autre, il était en panne sur le bas-côté ? Oh ben, je passais trop vite, Seigneur. Ouais, ben, ça aurait été peut-être bien de t'arrêter, de lui donner un coup de main. Ah, le temps de trajet. Tu pouvais pas t'arrêter et l'aider à changer sa roue ? Ah ouais, non, mais attends, hé, chacun pour soi, hein, c'est la course, hein. Chacun cherche ses propres intérêts. Hey, c'est mon parcours, hein. On n'a plus de vie. Hein. Puis peut-être je vais voir mon frère arriver avec 3 jours de retard là sur moi, et puis le Seigneur va dire, il va le faire monter une marche plus haut sur le podium que moi. Je vais dire, attendez, je ne comprends pas. Ah ben attends, je vais t'expliquer le parcours qu'il a eu et puis le véhicule pourri que je lui ai donné. Non, parce que faut être honnête, hein. Il y a des véhicules pourris. Ce que je veux dire, c'est que il y a des gens, les circonstances dans lesquelles ils sont nés, la famille qu'ils ont eue, enfin, vous avez l'impression que ça s'abat de tous les côtés. Oui ou non ? Ben, le Seigneur, à la fin, bizarrement et malgré tout, de manière un peu vacillante parfois, mais il marche pour Dieu. Ben, le Seigneur dira, ben, tu vois, il a quand même marché pour Dieu. Toi, tu te serais écroulé, tu te serais effondré. C'est pour ça que je t'ai pas filé ce parcours, parce que je savais que... Enfin, c'était pour lui, c'était pas un truc pour toi, ça. C'était pas un truc pour toi. Je lui ai donné à lui. Et maintenant, il reçoit de moi la louange qui lui est due. Amen. Et c'est ça, que l'humilité nous fasse regarder les autres comme supérieurs à nous-mêmes, c'est cette sagesse de dire, est-ce que je serai un meilleur pilote, est-ce que j'aurai fait le meilleur choix, est-ce que... Probablement pas. Et là, ça change notre regard sur les autres. Et quand on est en conflit, quand il y a de la bisbille, ça doit nous aider. Ça doit nous aider le regard qu'on porte sur l'autre. Dire, il pilote son existence et je ne sais pas ce qu'il a traversé. Il est peut-être un meilleur pilote que moi. Et donc, ce qui va avec, c'est que chacun de vous, c'est le troisième mot d'ordre, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est dur ça. Considérer ceux des autres plutôt que considérer mes intérêts. Ça veut dire quoi? C'est une décision qu'on prend que notre vie, comme Jésus, ayez en vous les mêmes sentiments. Je ne me focalise pas sur assurer mes propres intérêts, bâtir et travailler et investir pour que moi ça roule. Le Seigneur nous dit, écoute, travaille pour les autres. Dans tes relations, cherche à construire dans la vie de ceux qui sont en face de toi. Et fais-le pour Christ. C'est pour ça que ça doit être complété. Pas. Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation, verset 20. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Il dit non. Tu es appelé à chercher les intérêts de Jésus-Christ. Chercher les intérêts de Christ, c'est être, de ma part, la main qui construit dans leur vie. D'abord pour les non-convertis. Ah bon ? Ben oui, regarde le verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Il dit la première chose, où vous cherchez les intérêts de Christ, c'est de porter une parole de vie. Pas une parole de mort. Là, les paroles de mort, mais la parole de vie. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Tout à l'heure, on disait, imaginez, vous êtes en prison, dans l'univers carcéral, vous y allez pour témoigner. C'est ce que Jésus a fait. Et bien, dans cette génération perverse et corrompue, il dit, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Le Seigneur nous dit, cherche pas tes intérêts à construire ta petite vie avec, et c'est là où on en revient, hein, avec nos petites joies satellitaires. Vous vous souvenez des petites joies satellitaires? Voilà. Ça, c'est construire nos intérêts, chercher nos intérêts. Ça, c'est quand on n'a pas le noyau dur de la joie en Christ. Du coup, on cherche les satellites et on cherche à en faire un noyau. Hein, voilà. On cherche ses intérêts et non ceux de Christ. Comment pouvoir chercher les intérêts de Christ plutôt que les nôtres? Eh bien, en apprenant à cultiver le noyau dur de la joie. Quand vous avez le noyau dur de la joie, est-ce que vous avez besoin des satellites forcément? Non, quand ils sont là, merci Seigneur, quand ils sont pas là, ma joie, ça ne change pas. Et du coup, plutôt que de chercher mes propres intérêts, je suis libre, j'ai la liberté. Pourquoi ? Parce que j'ai la joie de Christ en moi, donc, ben voilà, je suis dispo pour pouvoir chercher les intérêts de Christ. Et c'est sûr que quand j'ai pas ma joie au centre, hein, mon noyau dur de la joie en Christ, comme je veux être heureux, et comme c'est douloureux, et comme ceci, comme cela, ben mon énergie, elle passe dans les joies satellitaires, hein, qui sont des étoiles filantes, et donc qui filent tout le temps, et donc il faut toujours courir après. Et c'est sans fin, c'est une vie sans fin, qui fait qu'on n'a jamais de temps pour les intérêts de Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le temps de porter la parole de vie au milieu d'une génération perverse, et qu'on n'a pas non plus le temps au sein de l'Église de construire dans la vie de nos frères et sœurs. que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quand tu as ton noyau dur de la joie, tu peux. Et c'est un mot d'ordre. Qu'est-ce qui est constructif? Et ça, c'est la grande question. Je veux être constructif pour mon frère et pour ma sœur. C'est pas toujours évident de discerner ce qui est constructif. Ça, c'est pas toujours évident. Dans les relations, et parfois dans les tensions, Évodie et Saint-Tiche, hein, parce que là, c'est dans le contexte des tensions, hein, notre texte, hein. Tu es en tension, tu es en conflit, c'est pas évident, il y a des gens qui t'agacent, leur caractère t'exaspère, ou ceci ou cela, tu supportes pas. Considère l'intérêt de ton frère, de ta sœur pour construire dans ta vie. Qu'est-ce qui est constructif? Et le Seigneur nous invite à faire ce qui est constructif, c'est-à-dire ce qui est juste. Ce qui est juste est toujours constructif. Ce qui est constructif est toujours juste. Il faut se rapprocher du Seigneur. Il faut chercher, Seigneur, avec un tel, je ne sais vraiment pas comment être constructif. Montre-moi. Donne-moi ton discernement, Seigneur. Est-ce que le Saint-Esprit va nous éclairer? Oui. Oui. Seigneur, je veux être constructif, montre-moi. Montre-moi ce qui est vraiment constructif. Quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises choses? Grand sujet, ça. Hein, mais on a besoin de discernement. Mais ce qui compte surtout, c'est que l'intention soit présente. Assurons-nous que nous voulions sincèrement, de tout notre cœur, être constructifs avec les autres autour de nous, et en particulier lorsque les relations ne coulent pas forcément de source. Hein, ont besoin d'huile dans les rouages. Et nous chercherons ainsi les intérêts de Christ. Et c'est tellement, moi je trouve que c'est tellement prenant lorsque vous lisez ce verset 20, ça fait mal au cœur. Hein. Quand Paul dit « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments », il parle des frères et sœurs de Rome, hein. Il ne parle pas des inconvertis. Hein. Il dit « J'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Tous, en effet, tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas ce noyau dur de la joie. Alors du coup, pour le remplacer, il faut les joies satellitaires, chercher ses propres intérêts, ses étoiles filantes. On travaille dur pour ça. C'est dommage parce que c'est gratuit en Jésus. Et même dans une prison, tu peux chanter. Et du coup, tu es libéré, tu n'as plus besoin de te faire ton noyau dur, il est en Christ. Et tu es libre pour servir les intérêts de Christ et ceux des frères et sœurs, et ceux dans cette génération perdue qui ont besoin d'entendre l'Évangile. C'est vrai que ça a un prix. C'est vrai qu'il y a une dimension de sacrifice. Et Paul dit... Regardez le verset 17. Même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Il dit, c'est vrai, hein, ça a un coût. C'est vrai que je ne cherche pas mes propres intérêts, je cherche les intérêts de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en prison, parce que je cherche les intérêts de Jésus-Christ, parce que je porte la parole de vie dans un monde, une génération perverse. Et je travaille dans l'Église. C'est vrai que j'y laisse des plumes. Mais il dit, je m'en réjouis. Même si je cherche libation, ben je m'en réjouis. Pourquoi? Parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a fait. Il a servi de sacrifice. Il s'est sacrifié. Et nous aurons cette dimension peut-être de sacrifice dans nos relations les uns avec les autres à un moment, parce que nous cherchons leurs intérêts plutôt que les nôtres. Mais lorsque nous avons le noyau dur de la joie, nous sommes capables, comme Paul, de dire « Je m'en réjouis ». Amen. Voilà ce que je voulais partager ce matin avec vous. Ainsi, ça s'achève ce message, sauf, vous allez dire c'est fini. Non. Un troisième truc. Oui, ben oui. Je peux pas m'en empêcher. Ça n'a rien à voir avec le reste. Enfin, mais regardez juste le verset 29 et le verset 30. Il s'agit d'Épaphrodite qui a été à deux doigts de la mort. Qu'est-ce que Paul dit ? Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Pourquoi je dis ça ? Je veux penser à notre cher Jacques. La parole nous demande d'honorer de tels hommes. Comme Épaphrodite, il dit c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a traversé ce qu'il a traversé, il a été près de la mort, il a exposé sa vie. Eh bien, nous avons dans l'Église Jacques. Il a donné sa vie au service du Seigneur pour l'Église d'Arles. Amen. Oui, ça fait plus de 50 ans qu'il fait ça. Il n'a pas ménagé sa peine. Il n'a pas ménagé son effort. Il l'a fait pour le Seigneur. Il l'a fait pour notre joie. Il l'a fait de la part de Dieu pour que cette Église, elle soit et qu'elle est ce qu'elle est. Amen. Rappelons-nous juste. Honorer de tels hommes. Alors je vous invite vraiment à porter Jacques dans la prière. Je vous invite à réfléchir. Voilà, comment honorer de tels hommes. C'est un ordre du Seigneur, honorer de tels hommes. Portons-le dans nos cœurs et le Seigneur nous montrera comment rendre un peu cet honneur, hein, honorer de tels hommes. Prions. Merci Seigneur pour ce trésor que tu nous fais, d'avoir ce noyau dur de la joie possible par le Saint-Esprit et ahurissant, qui fait que Seigneur, on n'a plus besoin de passer notre temps, notre énergie, notre existence à chercher les joies satellitaires, ces étoiles filantes éphémères, pour combler notre vie et le vide qu'il y a. Et ainsi nous sommes disponibles pour te servir, pour chercher les intérêts des autres et même, s'il le faut, servir de sacrifice qui est, c'est vrai Seigneur, il y aura une dimension où on perd des plumes, mais qu'importe. Paul était même capable de s'en réjouir tellement le noyau dur de sa joie était ancré en toi. Seigneur, que nous puissions prendre la décision, s'il le faut, d'avoir des relations apaisées, paisibles, de marcher autant que possible d'un même pas. Refuser la rupture en tant que telle, mais chercher à marcher ensemble. Chercher les intérêts de l'autre. Avec, Seigneur, cet apprentissage de l'humilité, cette humilité qui nous fait regarder l'autre comme supérieur à nous-mêmes parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quel est le parcours, on ne sait pas tout ce que les gens ont traversé et on ne sait pas si on serait un meilleur pilote à leur place. Aide-nous toujours à nous souvenir de cela lorsque nous portons le regard les uns sur les autres. Ce qui fait qu'on ne peut pas, Seigneur, se comparer. On ne peut pas estimer nos valeurs mutuelles. Il n'y a que toi qui pourras le faire. Alors comment on ne peut pas, Seigneur ? Apprends-nous cette sagesse d'estimer qu'on serait sûrement moins bon. Merci, Seigneur, de renouveler notre joie, d'apprendre, de nous aider à apprendre ce mot d'ordre. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et si nous nous rendons compte, Seigneur, que nous manquons de cette joie et que ce sont plutôt les satellites, aide-nous à changer complètement le cap pour vraiment être des chrétiens heureux en toi et qui savent accueillir ces joies satellitaires lorsqu'elles sont là, avec reconnaissance comme Paul pouvait le faire. Au nom de Jésus. Amen.